l'organisation a du mal hein, à aller chercher un bon résultat à l'extérieur. Et vous voyez encore, même en match de poule face à Al Hilal, cette équipe a eu des difficultés du côté du Soudan, encore face à El Merrikh, même cas de figure. Donc, c'est dire que cette équipe devra hein, s'appuyer encore sur ses supporters à domicile, puisque ça marche très fort hein, pour cette équipe à domicile pour son dernier match. Eh bien, elle a fait forte sensation hein, en écrasant le club de Soubonga. Maintenant, ce but marqué à l'extérieur pourra suffire pour cette équipe entraînée par Patrice Cateron. On le rappelle, l'objectif numéro un, c'est de remporter cette Ligue des champions et représenter le continent africain pour la prochaine Coupe du monde des clubs.
Allez, on va partir évidemment à Lubumbashi, retrouver un auditeur, il s'appelle Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir, la voix de la vérité.
Alors Jean-Claude, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match des Corbeaux au Soudan? Est-ce que vous êtes optimiste pour la qualification?
Tellement optimiste parce que la stratégie que notre entraîneur a adoptée au Soudan, c'était juste pour de faire voir à nos amis soudanais que de les mettre en confiance. Mais par rapport à cela, lorsqu'ils seront chez nous, ils seront surpris. Parce que Kamalonde est ici chez nous, c'est vraiment difficile qu'une équipe vienne d'ailleurs et que nous puissions laisser cette équipe-là l'emporter comme ça. Nous sommes vraiment sûrs et certains que Mazin va l'emporter par un score vraiment fleuve comme la porte à feu.
Et peut-être plus globalement, on en parlait avec Thierry Kambundji de notre radio partenaire hein, Top Congo à Kinshasa. Cette saison, on a l'impression, hein, c'est la deuxième saison avec Patrice Carteron, que Mazembe est très hésitant, hein, que ce n'est pas l'équipe la plus conquérante qu'on ait connue ces dernières années, que ce soit avec Diego Garzito ou avec Lamine Diaye. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Jean-Claude? Alors, ouais. On a du mal malheureusement à joindre Jean-Claude qui est à Lubumbashi au Katanga. On va continuer évidemment notre émission. On le rappelle évidemment, la défaite du tout puissant Mazembe face à El Merrikh 2-1 et l'autre victoire à l'extérieur, celle de l'USM Alger qui a pris un avantage peut-être décisif face à El Hilal. Victoire 2-1. On va évidemment continuer de suivre ce qui s'est passé sur le continent. On va parler de la Coupe de la Confédération, la Coupe CAF, hein, puisque l'étoile du Sahel n'a pas fait de détails en atomisant le Zamalek 5-1. C'était dimanche, demi-finale allée de cette Coupe de la Confédération. Dans l'autre match, les Orlando Pirates ont battu Al Ahly d'Égypte. Là encore, hein, c'est intéressant, Élisée Oupatine, de noter que les deux équipes égyptiennes ont perdu cette demi-finale.
Oui, on risque hein, de ne pas les voir en finale puisque on s'attendait à une finale 100% égyptienne. Hein, mais malheureusement, c'est vrai que le national Al Ahly du Caire a encore une chance hein, de se qualifier. Il suffit simplement de battre Orlando Pirates à domicile 2-0 et la dernière confrontation entre un club égyptien et cette équipe d'Orlando, eh bien, ça s'est soldé par une nette défaite. Hein. Les Sud-Africains, 4-1, c'était face à Zamalek. Donc, ça veut dire que Orlando Pirates pourra bien se déplacer maintenant du côté de Al Ahly, puisque les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois. C'était en finale, hein, justement, de la Ligue des Champions remportée par les Égyptiens. Maintenant, ça s'annonce très difficile. De l'autre côté, l'étoile du Sahel, ancien vainqueur de cette Coupe de la CAF, a déjà plié et complètement cette rencontre en s'imposant 5-1. Ce serait très difficile hein, pour l'équipe des Chevaliers Blancs hein, du Caire. Les Blancs, comme on les appelle, hein, de les Amalek, ne pourra pas forcément remonter cette défaite de 4-1, hein, aller marquer 5-1, puisque là, les buts marqués à l'extérieur pourra compter, donc marquer 4-1 à domicile pour se qualifier. Ça s'annonce pour moi difficile, donc on pourra s'appuyer sur Al Ahly hein, pour représenter l'Égypte, hein, ne serait-ce qu'en finale de cette Coupe de la CAF.
Allez, autre commentaire, hein, on retrouve un habitué de Sporama, Roger Yao, qui est en Côte d'Ivoire, San Pedro, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, sur ce match, évidemment, hein, le tout-puissant Mazembe, également la belle performance de l'USM Alger, qu'est-ce que vous retenez de ces demi-finales, Roger?
Oui, moi, je tiens que aujourd'hui, comme je disais, le football a tellement évolué. Quand vous voyez les Algériens jouer, vous voyez qu'ils jouent du bon football. Voilà, malgré la grande puissance du TP Mazembe, ils sont tombés. Voilà, donc moi, je vois la montée du football africain. Voilà, c'est ça que je retiens d'abord. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Voilà, donc en tout cas, moi, je suis très content de tout ce qui se passe autour du football africain. Moi, c'est ce que je retiens tout simplement. Donc, chaque équipe a sa chance. Hein. Aujourd'hui, même si vous perdez, je veux dire, 5 à 0 à domicile, qu'est-ce qui prouve que vous ne pouvez pas gagner 6 à 0 comment qu'il y a? Et donc, tout reste à croire. Les Congolais vont rêver. Et aussi, je veux dire, les Algériens aussi vont croire à leur avantage. Donc, on aura toujours de bons matchs à suivre, je veux dire, durant le week-end sur le continent africain. Voilà.
Merci beaucoup, hein, Roger, de nous avoir appelé. On va partir cette fois-ci au Congo-Brazzaville. On va retrouver un autre auditeur, Aymar. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Aymar, vous vouliez parler évidemment de la belle victoire hein, de l'USM Alger. Hein.
Tout à fait, la très belle victoire de l'USM Alger face à l'équipe Al-Lille. Vous savez que les joueurs de l'USM ont réussi un acte héroïque à cause de, au stade de Oumz, avec une maîtrise spectaculaire pour le gardien Mohamed Lamine. Je mets ma mouche, il faut bien le retenir, auteur de plusieurs arrêts décisifs dans un pénalty à la 64e minute tiré par le Brésilien André Silva. Il se faut noter que les Soudanais avaient ouvert le score dès la deuxième minute par Pondantin, qui avait bénéficié d'un contre favorable avant de battre Zabamouche, d'un tir bien cadré. Et les Algériens ne se sont pas découragés et ont réussi à recevoir au score par Oudia. Hein, c'est Oudia, ce phénomène Oudia, une belle tête croisée à la 13e minute avant que Batès, le double la mise finale à la 68e minute d'un tir bien placé. Bon,
il faut. Oui, on va poser. Ouais. Emma, on va poser la question à un autre auditeur sud-africain. On va partir en Afrique du Sud à retrouver Maskine Mafuta. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir les journalistes. Quelle radio
Allez, on y retourne évidemment. Alors, vous parliez du match de tout-puissant Mazembe. Vous y croyez, vous hein?
Oui, je soutenais Mazembe. Al-Bumbashi, Mazembe va gagner avec 3-0. Je suis exporté de Mazembe, je suis à Cape Town en Afrique du Sud.
Oui, bah écoutez, merci en tout cas pour cette analyse, évidemment, concernant. On va revenir à Jules Valentin Ngoué, hein, qui est à Libreville. Jules Valentin, sur finalement les péripéties des clubs égyptiens, ça vous surprend ou pas? Évidemment, tout n'est pas joué, il y a encore les matchs retour. Jules Valentin à Libreville.
Paraissait comme une foudre de guerre dans cette compétition. Et c'est surtout la manière dont l'équipe a été battue qui m'a le plus surpris. Et donc, vous voyez, enfin, en début de rencontre, l'Étoile a marqué 2 buts dans les 10 premières minutes, a su gérer l'ensemble de la rencontre pour placer encore les stockades aux 10 dernières minutes. Donc, c'est une équipe vraiment qui s'est métamorphosée complètement devant un Zamalek rapidement dépassé. Et on a pu voir que le Zamalek avait des lacunes sur le côté droit de la défense et aussi des hésitations au centre. Mais cela arrive généralement aux équipes qui doutent très tôt, puisque l'Étoile a marqué dans les toutes premières minutes.
Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique, évidemment. VOA Afrique. On continue cette émission, on marque une petite pause tout de suite. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. On va vous parler hein, d'Afro Basket Féminin 2015. Il se déroule en ce moment à Yaoundé. La grosse sensation de la soirée, évidemment, l'Égypte qui a créé la surprise en battant le champion en titre, l'Angola. Une victoire serrée 53-52. Bravo aux Égyptiennes. L'Algérie qui a été battue par la Guinée 66-67. L'Afrique du Sud dominée par l'Ouganda 55-43. Et la belle victoire des Maliennes face, évidemment, au Mozambique, et puis en ce moment même, évidemment, le Gabon qui affronte le Cameroun, tout comme le Nigeria face au Sénégal. Allez, on parle évidemment de l'information du week-end et même de ce lundi. On continue à se tirer dans les pattes, évidemment, à la FIFA. Sepp Blatter va-t-il entraîner Michel Platini dans sa descente? En tout cas, Le Suisse a été entendu évidemment par la police. Son bureau a été perquisitionné. Pour le moment, le Français, qui est président de l'UEFA, n'est entendu que comme témoin. Il faut dire que la justice suisse s'intéresse à un paiement de 2 millions de francs suisses qui a été effectué en faveur du Français Michel Platini en 2011. Le Français parle d'un travail légal pour la FIFA. Les enquêteurs cherchent donc à déterminer l'origine de ce paiement. Sepp Blatter a également affirmé aujourd'hui qu'il n'y avait rien d'illégal. Élisée Ong-Patine, est-ce que vous pensez que ce nouveau scandale va nuire finalement à Michel Platini, qui est candidat à l'élection de 2016?
Justement, hein, c'est pour nuire Michel Platini hein, que ce dossier a fait surface. Donc, c'est-à-dire que là, ça se complique. Hein. C'est vrai que Michel Platini s'est déjà exprimé hein, face à la justice suisse. Donc, c'est-à-dire qu'on attend le verdict final. Mais il faut le préciser, Michel Platini, qui a dirigé pendant des années hein, l'UEFA, hein, pourra se lasser facilement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde attendait hein, que le patron de la FIFA bien laisse. Patron de la FIFA, hein, Joseph être rattrapé hein, par le passé, eh bien, et ces choses faites, maintenant, il a doigté celui qui va peut-être hein, le remplacer, puisque désormais, tous les coups sont permis. Donc, c'est-à-dire que Michel Platini devrait faire très attention, puisque là, ça pourra blesser un peu son image, puisque là, ça s'annonce désormais compliqué. Attendons hein, de la décision finale de la justice suisse hein, et aussi et surtout la justice américaine qui s'amène. D'ailleurs, c'est cette justice hein, qui a été mentionnée, hein, c'est fraude hein, qui s'utilise tantôt à la FIFA, notamment les pots de vin partis par là, mais Michel Platini pourra rester tranquille pour le moment puisque l'affaire n'a pas encore donné de son dénouement, donc on attend de voir.
Merci beaucoup Thierry Kamboundi à Kinshasa sur finalement hein, ces nouvelles péripéties à la FIFA. Le prince jordanien hein, qui avait dit que finalement Sepp Blatter et Michel Platini c'était toujours le même vieux système corrompu. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison sur cette affaire?
Justement, j'allais rebondir sur les propos du prince jordanien candidat également à la succession de Sepp Blatter à la tête de l'instance fêtière du football mondial qui avait critiqué Michel Platini, qui avait dit qu'il est également impliqué dans la mauvaise gestion de Sepp Blatter. En tout cas, dans tous les cas, présomption d'innocence oblige, on ne peut pas dire aujourd'hui que Platini est totalement mouillé ou qu'il est impliqué dans cette affaire qui a été révélée par la presse suisse la semaine dernière. Mais une chose est sûre, c'est un très très mauvais départ pour celui qui était annoncé comme archi-favori face à de nombreux adversaires qui ne faisaient pas les poids par rapport à lui. C'est une très, très mauvaise communication et l'info arrive à un moment où certaines fédérations ne se sont pas encore positionnées derrière des candidats précis. Pour Platini, ça va vraiment mal.
Merci beaucoup. On va prendre un autre auditeur qui nous appelle depuis la RDC, Charles Moukoua. Bonsoir, Charles.
Oui, bonsoir.
Alors vous nous avez dit finalement ce serait mieux qu'un Africain dirige la FIFA.
Hein. Oui, parce qu'au sein de la FIFA, nous voyons que depuis qu'il y a seulement la section des Européens, il y a le problème d'abord du racisme. Parce que face à une équipe africaine qui se joue au niveau de la Coupe du Monde avec une équipe européenne, l'arbitrage n'est pas au milieu du village. Il y a toujours des poids, des mesures. Même si, même lors de la Coupe du Monde de 2010, entre la Côte d'Ivoire et le Brésil, il y a eu toujours l'injustice. Même au Brésil, en 2014, entre la France et le Nigeria. Donc, l'espace de la FIFA, dès qu'il y a seulement la succession des Européens, il n'y aura pas un bon arbitrage. Parce que, voyez, Blatter était candidat favori pour la succession de Sepp Blatter. Vous êtes tombé dans le même piège que Blatter. Donc, les Africains, s'ils gèrent, ils peuvent mieux gérer parce qu'ils auront d'abord faire et de gérer une grande institution comme la FIFA. Pour tenir toute leur rigueur pour mieux gérer.
Oui, ouais, c'est un point de vue, Charles. On va évidemment poursuivre là-dessus. Charles qui nous explique qu'il préférerait un Africain. Mais Jules Valentin-Gouin, au-delà évidemment de la nationalité, est-ce que ça ne pose pas encore une fois le problème de la transparence et des pratiques qui finalement ont cours au sein de la FIFA?
Oui, il faut dire que ce n'est pas un problème de personne qui se pose à la FIFA, c'est un problème de système. Donc, il y avait une ambiance bon enfant sur fond de je te donne, tu me donnes, et puis qui a pratiquement touché presque tout le monde. Et donc, quand le scandale est arrivé, l'attitude de Michel Platini aurait surtout été intelligente s'il avait pu observer une position en embuscade à la tête de l'UEFA, aurait laissé passer un candidat peut-être de transition avant de réapparaître quand Blatter n'est plus à la tête des dossiers brûlants et où la tempête s'est apaisée. Moi, je crois que c'est là où il a été maladroit. Mais ce dont la FIFA a besoin, c'est une organisation moderne qui tienne compte des rapports de force actuels.
Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. Allez, en bref, sachez qu'un nouveau président pour la FECAFOOT, Sidiki Tombia Roko, a été largement élu avec 59 voix sur 73. Sidiki Tombia Roko, ex-secrétaire général de la FECAFOOT, succède ainsi à Mohamed Ia, patron de la fédération de 2000 à 2013. Il avait été condamné à 15 ans de prison pour détournement de fonds. Et puis Didier Drogba est en forme, 7 buts en 6 matchs. Il semble se balader en MLS. Auteur d'un doublé samedi, l'Ivoirien a offert la victoire à l'Impact de Montréal lors de la venue de DC United. Un succès qui conforte la 6e place de la conférence Est pour le club canadien, synonyme de qualification. Et puis, est-ce qu'on fera du surf, du baseball ou de l'escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ou encore du roller ou du karaté? Voilà les 5 sports proposés ce lundi par les organisateurs nippons des prochains Jeux Olympiques. Le comité international annoncera son verdict lors de la prochaine Assemblée Générale avant les Jeux Olympiques qui se dérouleront en août l'année prochaine. Voilà, ainsi va s'achever ce Sporama. On va faire un grand coucou à Thierry Kambundji qui était à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
On va saluer Élisée Ongpatine à Boïcon. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Et on va saluer également Jules Valentin-Gouy à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Merci à tous, on va remercier Georges Léonard Sagnot qui était à la mise en onde. Un grand coucou à tous ceux qui nous suivent partout sur le continent et sur internet voaafrique.com.
Coco, it's Coco de Rock. Rastafari.